Lizzie présente Les filles du manoir Foxcott, Diff Chase, lu par Lila Tamazit. À ma famille. Quel est le sens de la vie? Voilà tout. C'est une question bien simple. Une question qui tend à nous hanter à mesure que les années passent. La grande révélation n'était jamais venue. La grande révélation ne vient peut-être jamais. Elle est remplacée par de petits miracles quotidiens. Des révélations, des allumettes inopinément frottées dans le noir. En voici une. Virginia Woolf, La promenade au phare. Un corps découvert dans les bois. 29 août 1971, Gloucestershire Inquirer. Hier, un cadavre a été trouvé dans le parc d'une propriété de la forêt de Dean. La mort est jugée suspecte. Des gens du pays, choqués, nous ont confié que le domaine, le manoir de Foxcott, appartient à la famille Harrington, qui s'y est installée au début du mois après un incendie dans sa maison londonienne. Un habitant du village le plus proche, Oxwell, qui désire rester anonyme, a déclaré « Nous espérons tous que ce ne soit qu'un terrible accident. Une telle chose ne devrait pas arriver dans ce coin tranquille, ni à des personnes comme les Harrington. » Chapitre 1. Rita, forêt de Dean, 4 août 1971. Le bois semble vouloir nous dévorer vivants, pense Rita. La lumière a pris un vert étrange et des branches fouettent les vitres de la voiture. Sa main se crispe sur le volant. Le chemin se rétrécit encore. Se demandant si elle a manqué le virage qui mène à la maison ou s'il est au prochain croisement, Rita aborde un tournant trop vite, puis écrase la pédale de frein. Elle reprend haleine, écarquillant les yeux derrière le pare-brise moucheté d'insectes. Elle ne sait trop à quoi elle s'était attendue. À quelque chose de plus chic, de plus Harrington, pas à ça. Derrière une haute grille rouillée, le manoir de Foxcott surgit des sous-bois, comme soulevé de terre par une poussée géologique. Une beauté ravagée, aux fenêtres à meneaux clignotants, tels des ivrognes aveuglés par la lumière vespérale. Des arbres colossaux dominent un toit de tuiles rouges affaissé au centre, ainsi qu'un dos cassé, avec des cheminées bancales. Du lierre envahit la façade à colombages, grouillant d'un tourbillon d'oiseaux, pareil à une nuée d'abeilles. C'est aussi loin de l'hôtel particulier des Harrington que Rita aurait pu l'imaginer. Pendant un instant, personne ne parle dans la voiture. Quelque part dans les arbres, un pivert tambourine, marquant son territoire. La sueur coule sous les genoux de Rita. Alors seulement, elle s'aperçoit que ses mains tremblent. Elle a eu beau tenter de le cacher à Ginny et aux enfants, depuis qu'ils ont emprunté la route forestière, 5 heures après leur départ de Londres. La panique l'a gagnée. Ce n'est pas juste la peur de tuer ses précieux passagers. Par moments, sa vision s'est réellement brouillée, déformée par tous les arbres immenses, l'absence de ciel et l'image d'un tronc percuté à vive allure. Maintenant qu'ils ont survécu au trajet, elle pose une main sur sa bouche. Tout va encore trop vite. Comment a-t-elle pu atterrir ici? Dans une forêt en plus. Elle déteste la forêt. Ce devait être un job de nurse à Londres. 14 mois plus tôt, Rita n'était jamais allée dans la capitale. Pourtant, elle en avait passionnément rêvé, se voyant déjà loin de Torquay, de tout ce qui s'était passé. Imaginant la famille londonienne digne des darlings dans Peter Pan, qu'il adopterait avec joie. Elle vivrait dans une grande maison bien chauffée, sans compteur à valeur de pièces, contrairement au bungalow de mamie. Elle aurait une chambre à elle, avec un bureau et une étagère, peut-être une vue sur la ville trépidante. Et la mère qui l'engagerait serait, eh bien, parfaite, délicate et gentille, cultivée, avec de fins lobes d'oreilles et des mains gracieuses, comme la sienne qu'elle se rappelait vaguement. Elle retrouverait tout ce qu'elle avait perdu dans l'accident et qu'une part d'elle-même continuait à chercher. Le jour de l'entretien d'embauche, en contemplant le stuc blanc et la glycine cascadant sur la maison de Primrose Hill, elle avait su aussitôt que cette demeure serait son nouveau foyer, sa nouvelle famille. Elle avait ressenti une sorte de picotement en frappant à l'élégante porte d'entrée, le cœur battant sous son plus beau corsage, qui le semblait bien moins à Londres. À présent, il n'est qu'un pis-aller, emballé dans le coffre avec tous les autres vêtements, pratique, simple, aux manches souvent trop courtes, qu'elle a pu sauver de l'incendie qui a dévasté cet hôtel particulier le week-end dernier. Même après un cycle long à la laverie automatique, ses habits sentent encore la fumée. Rita jette un coup d'œil à Jenny sur le siège passager. Dans sa nouvelle tenue de chez Harrods, elle est résolument vêtue pour la ville, cramponnée à un sac noir verni comme à une bouée de sauvetage. Elle a l'air fragile, bouleversée. Sa récente perte de poids se voit cruellement dans sa jupe en crêpe, à la ceinture resserrée d'un cran, son twinset en cachemire bleu clair et son foulard en soie blanche, pareil à un bandage autour de son cou grêle. En outre, elle a mis ses lunettes de soleil, à monture en écaille et au verre extra large, qu'elle chausse toujours après avoir passé une nuit à pleurer. Ginny ne voulait pas quitter le Claridge. Rita non plus. Elle n'avait encore jamais dormi quelque part où elle ne devait pas faire son lit. La femme de chambre ne l'avait même pas laissé replier le drap sous les coins du matelas. Ginny n'avait aucune envie de venir ici. Une maison monstrueuse. Ça ressemble à Walter de m'isoler dans ce trou. A-t-elle chuchoté la nuit dernière pour que les enfants ne l'entendent pas. À la vue du manoir de Foxcott, Rita se demande si elle n'a pas raison. Quand elle était arrivée à Londres, tout était différent. Elle se rappelle Ginny lisant ses références à haute voix, son sourire naissant, ses mains caressant le soleil de son ventre épanoui. Loyale, gentille et adorée par mes 4 enfants, merveilleuse avec le bébé, un peu moins pour la cuisine et la lessive, très nerveuse au volant. Je la reprendrai sans hésiter. Walter ne lui avait pas prêté une attention particulière. Homme réservé à la moustache soignée, musclé dans un costume ajusté, il s'était montré aimable, mais pragmatique. Après une vigoureuse poignée de main, il avait pris congé, en lançant des baisers aux enfants. Puis il avait filé à son travail, laissant dans son sillage des effluves de mousse rasée. À l'époque, il laissait volontiers les décisions domestiques à sa femme. Il dirigeait la firme Harrington Glass à Mayfair, pas la maison familiale. Et il semblait très sympathique. S'il y avait des signaux d'alarme, Rita ne les avait pas décelés. Elle n'avait jamais autant désiré un emploi. S'asseyant prudemment sur le sofa, elle avait joint les mains pour qu'elle ne remue pas et croisé les jambes au niveau des chevilles, les rentrant selon les consignes de mamie. « Tu paraîtras moins grande, chérie, plus féminine. » Elle s'était efforcée de ne pas trop sourire, d'avoir l'air très professionnelle, plus âgée que ses 20 ans, digne d'un tel poste. Ginny avait appelé Teddy, 5 ans, dans le salon, puis soufflé à Rita. « Il est adorable. » C'était vrai. Elle avait dû résister à l'envie d'ébouriffer ses cheveux bouclés. Ira, 12 ans, était entrée ensuite, nettement moins charmante. Comme pour le compenser, elle apportait un gâteau, une pâtisserie, selon Ginny, sur une assiette en porcelaine avec une minuscule fourchette en argent. Pendant qu'elle expliquait timidement comment prononcer son nom précieux, « Ira !» Rita avait pris l'assiette, qui s'était renversée, puis le gâteau avait glissé, dans un horrible ralenti, pour atterrir sur le tapis, contre l'aspidistra en peau. Ira avait pouffé. En croisant son regard, Rita, catastrophe, avait ri aussi et tenté de cacher son rire par une quinte de toux. À l'évidence, elle avait tout gâché. Elle allait être renvoyée à la vie provinciale et à son vilain secret. Or, c'était ce rire, lui avait dit plus tard Ginny, qui l'avait conquise. Elle voulait que le bébé ait une jeune nourrice gaie, pas une vieille mégère. Mais le bébé n'avait jamais entendu le rire de Rita, ni de personne d'autre. Maintenant, il n'est plus qu'une poupée fantôme, raide, blanche, figée dans le temps, une présence toujours sentie, mais jamais, surtout pas, évoquée.